Binti Minoudi, l'émission politique d'RCFM, Patrick Vinciguerre.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Binti Minoudi avec aujourd'hui comme invité Jean-Martin Mondoloni, le président du groupe Pellaben à l'Assemblée de Corse, premier groupe d'opposition. Jean-Martin Mondoloni, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Premier opposant au plan régional, je le disais, serez-vous à la tête d'une liste de droite au municipal de Bastia de mars prochain? C'est la question que tout le monde se pose, nous vous la poserons dans un instant. Nous évoquerons aussi dans cette émission ce regain de violence dans l'île avec un assassinat la semaine dernière à Cargès, un autre ce matin à Foriagne. De quoi cette violence est-elle le nom? Vous nous donnerez votre sentiment. Au menu aussi les dossiers récurrents qui agitent le Landerneau Corse, comme le statut de résident. Mais avant donc Jean-Martin Mondoloni, je vous posais la question il y a un an, ici même. À l'époque, vous me répondiez que vous étiez sollicité, que vous y réfléchissiez. Alors aujourd'hui, à 6 mois de l'échéance, votre décision est-elle prise? Serez-vous candidat à la municipale de Bastia?
Écoutez, vous avez attendu un an, je pense que vous pouvez attendre encore quelques jours.
Il faudra prendre une décision avant mars. Hein.
Plus sérieusement, c'est une décision qui engage. On parle de la deuxième ville de Corse. On n'est pas à Stazzone. Et j'aime beaucoup Stazzone, où je passe régulièrement en vélo. Mais on a des enjeux économiques, des enjeux financiers, des enjeux politiques qui sont très importants et qui nécessitent beaucoup plus sérieusement une construction ascendante. Vous savez, il y a deux façons de s'engager en politique. C'est de se déclarer et puis de vérifier si les gens vous suivent. Et puis une déclaration qui suit.
Mais c'est une question de jour.
Une procédure. La procédure que j'ai toujours privilégiée en politique, c'est la suivante. C'est d'abord, on parle des idées. Il faut bien parler de Bastia, en l'occurrence, de ce que peut-être Bastia, dans la modernité, comment elle va s'inscrire dans les années qui viennent. Et y a-t-il ou non besoin d'alternance? Et si oui, avec qui? Avec quelles équipes? Sur quel projet?
Et vous avez rencontré la semaine dernière vos amis, vous en avez discuté de ça.
La question,
ça a mûri ou pas?
La question du leadership ne peut venir qu'à la fin. Donc, pour répondre partiellement, et j'en suis désolé à votre question, oui, je suis sollicité. Il me reste à prendre en compte 2 structures ou 3 qui aujourd'hui font partie du paysage politique à droite. La formation que j'ai l'honneur de présider, bah, sans dire que je suis très sollicité dans mon camp, la droite dite régionaliste. Les LR qui font partie du paysage politique à parts égales, et je crois que François-Xavier Tchéco y est en train d'œuvrer pour essayer de voir dans quelles conditions nous devons travailler à l'Union, et enfin y compris l'UDI que préside Jean Thom au niveau régional. Donc toutes ces structures ont un mot à dire. Si toutes ces structures valident le principe de l'Union d'abord et avant tout, et ensuite qu'ils me demandent de conduire une liste, non seulement je le ferai par responsabilité, mais je veux dire avec beaucoup de plaisir, parce que Bastia est aujourd'hui la belle endormie, et je pense que Bastia a besoin d'un nouveau souffle, et je souhaiterais dans ces conditions, uniquement dans ces conditions, pouvoir contribuer à la fois à redonner des couleurs et un visage neuf à ma famille politique, et surtout, et enfin, proposer l'alternance que mérite une grande ville comme Bastia.
Donc on l'a compris, ça avance, ça germe, ça mûrit cette candidature. Alors Jean-Martin Mondoloni, vous espérez obtenir le soutien de la fédération Les Républicains de Haute-Corse. Son président François-Xavier Tchéco ne dit pas non, mais privilégie toujours l'Union, on l'a entendu dans notre journal de midi. Or, pour l'Union, c'est mal parti, puisque Stéphanie Grimaldi a déjà annoncé sa candidature. On l'écoute et puis vous réagissez.
Dans tout mon parcours politique, je crois que j'ai fait la démonstration de ma volonté d'être toujours au service de ma famille politique et à chaque fois dans l'Union. La division n'a jamais été de mon fait. Donc moi, ça reste pour moi un objectif. C'est pour ça que je reste ouverte à toute discussion.
Récemment, là, est-ce que vous avez eu des discussions avec Jean-Martin Mondoloni?
Oui, il y en a eu récemment encore, il y a un peu moins de 15 jours. Tout à fait. Et c'était une discussion, c'est vrai, qui était différente de celle que nous avions pu avoir en début d'année, en février, en avril, puisque sa position avait quelque peu changé. Mais moi, par contre, je lui ai rappelé quelle était la constance dans cette ambition que j'avais pour Bastia depuis un an, la légitimité et le fait que cette candidature, pour moi, était naturelle. Et donc, je lui enjoignais de se rallier à ma candidature.
Binti Minoudi, l'émission politique.
Jean-Martin Mondoloni, qu'avez-vous répondu à Stéphanie Grimaldi?
Là où Stéphanie,
vous la suivez,
dans ses propos, parle d'ambition et de légitimité. Moi, l'ambition individuelle, la légitimité individuelle, je veux non pas opposer, mais je veux proposer au Bastiais une ambition collective et une légitimité collective. Pour ce qui est de l'ambition collective, j'attends que l'équipe qui pourrait se construire autour de moi se manifeste. Et pour ce qui est de la légitimité, je suis bien contraint d'en appeler aux appareils, aux formations existantes qui diront ce qu'elles ont à dire le moment venu. Et c'est fort de ces soutiens que j'espère solides.
Donc vous attendez la réponse de la Fédération LR.
C'est fort de ces soutiens solides et structurés que je prendrai ma décision. Et évidemment, Stéphanie et d'autres encore auront toute la place dans ce dispositif d'union. Après, qui divise et qui rassemble, ça, ce sera aux électeurs d'en décider. Ce que je veux dire, c'est que les électeurs sont blasés de ces compétitions à nominem. Je pense que ce qui explique que les lecteurs, de façon générale, s'éloignent de plus en plus des urnes, c'est que l'impression qu'on est dans des compétitions individuelles. Je ne suis pas du tout dans ce registre-là. Tout le monde sait très bien que je m'épanouis à la fois dans ma formation professionnelle et à la fois à l'Assemblée de Corse. Moi, je crois qu'il y a un enjeu qui est capital aujourd'hui à Bastia et nous devons mettre toutes nos forces de nos côtés. Ces forces-là passent par une légitimité qui soit partagée par le plus grand nombre et non pas par des candidatures descendantes et considérées par beaucoup comme imposées.
Mais vous préféreriez être tête de liste que de suivre Stéphanie Grimald.
Non, mais on n'est pas sur des questions de personnes, on est des questions quand de légitimité. S'il s'avère...
L'élection municipale, c'est une incarnation du futur maire.
Je vais répondre très directement pour qu'on ne situe pas les choses au niveau des hommes et des femmes. S'il s'avérait que telle ou telle personne était la mieux placée pour conduire les espoirs de notre famille à Bastia ou ailleurs, je ferais ce que j'ai toujours fait dans ma vie, y compris du reste à l'égard de Stéphanie Grimald, qui sait très bien à quel point j'ai soutenu. On ne peut pas dire qu'en retour, j'ai été beaucoup soutenu par l'intéressé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aux Bastiais et aux forces en présence de décider celui ou celle qui est le mieux placé pour conduire les espoirs d'une famille politique. Partant de là, tout le reste ne relève que de candidatures individuelles qui ont leur place dans le paysage politique. On ne peut interdire à quiconque en démocratie, à gauche, à droite et chez les nationalistes, de se prévaloir d'un soutien qui devrait être à ce moment-là validé, non pas par des instances, non pas par des réunions, mais par le suffrage universel qui est la seule sanction qui vaut en démocratie.
Alors Jean-Martin Mondoloni, vous êtes depuis un an proviseur du lycée du Fangue à Bastia, c'est votre deuxième année, mais vos racines sont en Kazinc. Que répondez-vous à ceux qui d'ores et déjà vous accusent de parachutage ?
Ben, il faudra m'expliquer parmi les candidats en présence qui est réellement Bastiais. Voilà, et je laisse le soin à nos auditeurs de pouvoir répondre à ces questions lorsqu'ils ont la liste des candidats.
Vous avez toujours vécu en Kazinc, plutôt.
Je laisse aux auditeurs le soin de décrire.
Stéphanie Grimald l'a dit via Bastia.
Oui, et les Bérès de la Porte, bon, ce qui est du reste assez inconvenant à l'égard des gens de la Porte, de mon point de vue. Mais encore une fois, je laisse les auditeurs qui connaissent bien les candidats qu'il soit dans la majorité et l'opposition à Bastia, le soin de décrire le parcours et les cartes d'identité bastiaises dont beaucoup se prévalent. Je ne crois pas que l'enjeu qui doit être celui d'une élection municipale, encore une fois, aux enjeux économiques, sociaux et politiques de Bastia doivent uniquement se situer sur ce registre. J'ai la chance et le privilège et le bonheur, en tout cas, d'exercer un métier qui m'amène à avoir une vue panoramique de la vie bastiaise. Et c'est fort de cela que, me semble-t-il, ma candidature pourrait être légitime, si elle est légitimée, bien entendu.
Alors, on clôt ce chapitre municipal avec un quasi-candidat, Jean-Martin Mondoloni, on l'a bien compris.
20 minutes. Patrick Vinciguerra.
Toute autre chose à présent, l'assassinat en fin de semaine dernière à Cargès d'un jeune militant nationaliste, l'assassinat ce matin à Fort-Yann et d'un promoteur immobilier. Jean-Martin Mondoloni, au-delà de la condamnation, de l'indignation, que dit ce regain de violence de la situation actuelle de la Corse, de son climat ?
Bon, d'abord, au titre de responsable politique, je ne peux que m'incliner devant ces drames qui sont, pour répondre à votre question, le signe d'un délitement de notre société. Je pense que nous avons à réfléchir collectivement sur le...
Petite parenthèse, après l'assassinat la semaine dernière à Cargès de Maxime Souzigne, après quelques heures de sidération, on a eu la condamnation de tous les leaders nationalistes, de Gilles Sémione à Jean-Guy Talamogne, en passant par Jean-Félix Acquaviva, Jean-Christophe Angelini. En revanche, à ma connaissance, pas de réaction de votre part.
Ce n'est pas dans les habitudes et dans les codes culturels de ma formation politique de nous incliner devant des assassinats, sauf lorsqu'ils sont marqués du sceau politique. Je crois que c'est la justice de faire la lumière sur ces affaires. Il n'en reste pas moins que des jeunes hommes sont aujourd'hui tombés sous les balles d'assassins sans scrupules. Et je pense que là, on a affaire à des situations qui témoignent, encore une fois, d'un délitement sociétal. Et nous avons réfléchi, nous, responsables publics, à la façon dont on peut enrayer cette spirale. Nous avons notamment à réfléchir, je l'ai dit très clairement, sur le rôle que l'argent fou joue dans ce domaine, particulièrement pour tout ce qui touche à l'immobilier, à la terre et à la raréfaction des biens qui, pour rares qu'ils sont, deviennent précieux et donc entraînent des plus-values et, me semble-t-il, corrompent une partie de notre société, ou en tout cas une partie
de
l'opinion qui se sent autorisée à passer au pire lorsqu'il s'agit de promouvoir un certain nombre de biens qui rapportent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Alors, je vais vous citer Jean-Martin Mondologne. À la fin août, encore ce matin, vous livriez cette analyse. Alors, je vous cite, des repères sont en train de s'effondrer alors même que les nationalistes ont nourri l'idée qu'on allait voir ce qu'on allait voir à Nostra Lingua, à Nostra Dar, une espèce de mythification qui, de mon point de vue, est une prison mentale, notamment pour les plus jeunes, et de poursuivre tout aussi sévère. Tout ceci participe d'un délitement sociétal aggravé par l'idée que l'avènement nationaliste allait faire œuvre de purification. Jean-Martin Mondologne, on a le sentiment qu'à vos yeux, les nationalistes seraient responsables en partie de la situation actuelle.
Ils ne le sont pas ad hominem. Maintenant, lorsque vous générez dans l'opinion une illusion selon laquelle un changement sociétal profond va s'opérer au motif qu'une formation politique arrive au pouvoir, il faut bien comprendre que notamment parmi les cerveaux les plus captifs, je pense aux jeunes, on a l'illusion que les choses vont changer et que lorsque cette formation aux affaires, qui a quasiment aujourd'hui tous les leviers du pouvoir encore, se montre dans l'incapacité à la fois de gérer l'ordinaire, les déchets, le foncier, probablement sujet sur lequel nous reviendrons au cours de cette émission, et qu'en même temps nous sommes rattrapés par toutes les tarpitudes qui fondent les sociétés modernes, du moins en Occident, et avec des phénomènes de banlieue, on voit un nombre de voitures dégradées, on voit je le disais dans cet article, des cambriolages pendant les enterrements.
Mais que pourraient faire les nationalistes au pouvoir ? Que pourraient faire les nationalistes au pouvoir ?
Ce que je sais, c'est deux choses.
Pour lutter contre ce phénomène de violence.
Ce que je sais, c'est qu'ils ont nourri l'illusion que ça allait changer. Et ça n'a pas changé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, entretenir probablement des rapports avec l'État qui soient moins conflictuels et qui rendent la fluidité des services de l'État beaucoup plus opérante. Ça, je pense que c'est le minimum. Quant au reste, sur les problématiques aujourd'hui qui peuvent être en situation d'expliquer un certain nombre de situations délictuelles, je pense que les nationalistes ont une responsabilité. Il ne s'agit pas de le masquer lorsqu'on est en situation de réviser ou pas le PADUC, qui est devenu un document confiscatoire et qui aggrave la problématique du foncier. On ne peut pas faire comme si les nationalistes ne portaient pas une responsabilité.
Et la réaction de l'État est-elle à la hauteur ?
Alors, si vous voulez, la réaction de l'État, qu'elle ne soit pas à la hauteur, je veux bien le concéder. Maintenant, rendre l'État responsable du délitement de la société, c'est un peu fort de café. Autrement dit, c'est la stratégie, c'est quand tout va bien, c'est grâce à nous, et puis quand ça ne va pas, c'est la faute de l'État. C'est la stratégie de la citadelle assiégée, et à l'heure du bilan qui semble maigre, aujourd'hui à l'Assemblée de Corse pour la majorité,
il y avait des assassinats aussi quand vous étiez au pouvoir.
Il sera bien
quand
commode,
vos amis étaient au pouvoir, Jean-Martin Mondologne.
Tout à fait, mais il sera bien commode à ce moment-là de pouvoir expliquer que ce qui va mal, c'est parce que l'État est en responsabilité quasi unanime ou pas du tout partagée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsque vous êtes en responsabilité, vous avez des leviers du pouvoir, on va y revenir sur un certain nombre de sujets, et j'affirme et je revendique que tous ces leviers n'ont pas été activés.
20 minutes, l'émission politique.
Allez, 20 minutes, on avance. Jean-Martin Mondologne, en Corse, depuis 2006, les terrains constructibles ont connu une augmentation de 138%, une augmentation vertigineuse. C'est un rapport de l'Agence de l'urbanisme qui l'a révélé. Au cœur de l'été, à l'Assemblée de Corse, tout le monde s'est accordé à reconnaître que les Corses ont de plus en plus de mal à accéder à la propriété. En revanche, c'est sur les solutions que naissent les divergences. Le statut de résident, proposition relancée par Corsica Libre, vous n'y croyez pas ?
d'abord relancé dans des conditions absolument condamnables. C'est pas
en fait allant, allusion aux menaces d'expropriation.
C'est pas en allant tracter des avertissements sous forme de menaces qu'on va résoudre le problème. Vous l'avez dit, nous avons eu un beau débat à l'Assemblée. Ce beau débat de grande qualité appelle des solutions parce que le diagnostic est partagé. Et oui, même si on veut bien concéder que certains ont été visionnaires sur ce sujet, on a un problème. Les Corses ne peuvent plus se loger. Donc la question du résident, outre la forme, nous pose problème dans la mesure où il n'a jamais été démontré scientifiquement que lorsque vous aurez donné 5 ans de résidence à des Corses, mécaniquement, les prix vont baisser. Alors, je veux bien que là aussi, en direction des cerveaux les plus captifs, ça fonctionne bien que d'expliquer que la terre aux Corses et les appartements aux Corses, ça va permettre de résoudre les problèmes. Nous, nous sommes des pragmatiques. Et nous disons, je vous l'ai dit au président Talamon il n'y a pas plus de 4 jours, nous sommes réunis sur ce sujet. Si on va monter, négocier quoi que ce soit à Paris, et je pense qu'en matière de fiscalité, on peut trouver un point d'équilibre et un consensus. Encore faudra-t-il montrer à Paris que nous avons optimisé l'ensemble des moyens réglementaires et législatifs qui sont à notre disposition.
Bien que Jacqueline Gourault ait dit non à une surtaxation éventuelle des résidences secondaires.
Oui, moi, on m'a toujours appris que Bercy n'était pas imprenable. Voilà, il faut monter, discuter sérieusement. Et être sérieux, c'est faire la démonstration que nous avons fait le plein usage de ce qui existe. A-t-on travaillé sur le PADUC ? Non. A-t-on travaillé sur les plans locaux d'urbanisme ? Non. A-t-on travailler sur le bail réel solidaire. Ça fait 3 ans que nous l'avons proposé. Il n'y a pas le début de commencement d'amorce, d'action sur ce sujet. A-t-on travaillé sur la fiscalité ? A-t-on travaillé aujourd'hui sur la préemption ? Le seul exemple de préemption que nous ayons à démontrer à Paris aujourd'hui, à mettre sur la table, c'est une propriété qui a été préemptée à Cavallo, me dit-on, un restaurant prestigieux fait face à des balles d'hélicoptère pour des richissimes clients qui viennent dîner. Je veux dire, est-ce que c'est la solution qu'on peut apporter à Paris ?
Il y a aussi cette solution avancée par Gilles Simeoni la semaine dernière à la Chambre du territoire, ce plan On a gaz à Bétout.
Vous imaginez bien qu'il y aura une unanimité.
12 millions d'euros accordés à des maires pour
oui,
aider à la
construction. Oui, on est passé de 10 à 12 millions d'euros, donc vous allez voir ce qui va se passer à l'Assemblée, je vous mets dans le mille. Il y a ceux qui disent qu'il faudra 15, et puis il y a ceux qui disent qu'il en a fallu 30. Comment ne pas être d'accord avec l'idée qu'il faut offrir un toit à tous ? C'est pas de cela dont on parle d'une logique beaucoup plus globale, et je dis qu'en termes de méthode, après, peut-être que sur le fond, nous divergerons. Peut-être que nous entendrons sur un certain nombre de sujet. En termes de méthode, il va bien falloir montrer à l'État que nous avons fait plein usage et tiré plein bénéfice de ce qui se fait ailleurs. Le bail réel solidaire, sur lequel je veux revenir, est en fonction à Biarritz, c'est en fonction à Lille, c'est en fonction à Paris, et ça fonctionne. Lorsqu'ACA, Thierry, mon ami Domé Andréagne, fait des résidences pour donner accès à la propriété à des jeunes à revenus modestes, ce sont des solutions qui existent, qu'on ne dise pas qu'on a tout essayé et que finalement, ayant tout essayé, il n'y a plus qu'une solution, c'est le statut de résident. C'est un peu spécieux comme raisonnement et ça trouvera rapidement ses limites.
Alors, il y a peut-être d'autres solutions, c'est la modification du PADUC, vous en parliez, donc on l'a dit, le foncier est trop cher, l'occupation du littoral qui pose problème. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut modifier ce PADUC qui manifestement ne répond pas à ces problèmes.
Inévitablement, oui, mais il ne faut pas ranger les gens de camp. Ceux qui veulent réviser le PADUC ne sont pas en proie aux forces de l'argent.
Ce ne sont pas des bétonneurs.
Ils ne veulent pas bétonner le littoral. Ils veulent simplement répondre à une question qui nous semble simple. Faut-il de l'agriculture ? Oui, mais d'abord on répond au problème de l'eau, après on répond à quel modèle agricole et après on préempte. Là, on a préempté 105 000 hectares. Question que je veux poser, est-ce qu'il y a plus d'agriculteurs qu'il y en avait avant ? La réponse est non, mais mécaniquement, la rare réfaction de l'offre fait monter les prix. Et donc, on a intérêt à s'interroger sereinement sur la façon dont pouvoir avoir un plan qui va servir de directive territoriale d'aménagement, qui puisse libérer des espaces en préservant notre littoral, qui est notre musée à nous. Il n'y a pas, par exemple, dans mon groupe, des gens qui seraient tentés par la volonté de libérer des espaces, l'espace littoral. Je fais même pas partie de ceux qui disent que la bande des 100 mètres, elle est aujourd'hui désuète. C'est peut-être 200, 300 mètres qu'il faut préserver, compte tenu du réchauffement climatique et de la montée des eaux.
Si vous reviendriez, si j'ai bien compris, sur les 105 000 hectares agricoles sanctuarisés.
Et peut-être qu'il faudra en sanctuariser davantage. C'est pas ça qu'on dit. On dit simplement, nous, la chose suivante, on dit qu'ils sont mal situés, qui sont géographiquement mal indexés. Et deuxième chose, que nous n'avons pas posé la question de quelle agriculture nous voulons. Et c'est après qu'on décide de préempter dans des zones dont la potentialité agricole est avérée, ce qui n'est pas le cas du parking de Propriano.
On termine, Jean-Martin Mondolane, une dernière question pour boucler la boucle. On a commencé en parlant d'élections, les municipales, on a compris que vous étiez quasiment candidat. On termine rapidement sur les territoriales de 2021. Vous l'avez annoncé, vous repartirez au combat. En 2017, votre gimmick, c'était Siba Sagarkoz. Vous pensez que les élections de 2021 seront les bonnes pour vous ?
Écoutez, j'étais assez raillé sur ce sujet, je ne vais rien dire. On va faire en sorte que nous ayons passé ces garçons, mais c'est à l'heure de Zanzadil.
Aspettando Hachti, passera fort ces garçons à Hachti.
Et per que non.
Voilà, merci.
Merci à vous pour votre invitation.
Merci Jean-Martin Mondolone d'avoir été notre invité.